France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
En août 2023, Bernard Lahire publiait aux éditions La Découverte un ouvrage au titre ambitieux, Les structures fondamentales des sociétés humaines. Ouvrage passionnant à l'ambition folle qui entendait refonder les façons de faire des sciences humaines et sociales. En cause, selon lui, l'ultra spécialisation de la recherche contemporaine, la difficulté à dessiner un consensus scientifique, l'amincissement drastique des questionnements et des leçons qu'on en tire, le pullulement des théories théoriciennes. Un ouvrage, on s'en doute, qui a engendré des réactions fortes et des critiques du même degré. Dans une forme plus concise et un livre à paraître cette semaine, Bernard Lahire enfonce le clou. Il répond aux limites qu'on lui oppose et fixe un horizon, diriger le travail de chercheur vers une science sociale du vivant. Bonsoir Bernard Lahire.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre du centre Max Weber à l'École normale supérieure de Lyon. Et donc cet ouvrage qui paraît avec Laure Flandrin et Francis Sansen qui vous ont interrogé tout au long de ces pages aux éditions La Découverte vers une science sociale du vivant.
Alors actuellement, on est là parce qu'en fait, on a peur pour notre université, on a peur pour notre avenir, on est en train de faire des économies sur nous. C'est censé être nos plus belles années et en fait, on est juste en train de survivre et de se battre tous les jours juste pour avoir une vie décente et un enseignement décent. Il y a une énorme mobilisation aujourd'hui, on espère que ça va durer dans le temps pour justement être entendu, écouter et faire changer les choses.
Nos établissements sont menacés d'asphyxie financière, par notamment des transferts de charges qui s'élèvent maintenant à plusieurs dizaines de millions d'euros pour l'Université Clermont-Auvergne. Si en effet cette politique n'est pas infléchie rapidement, cela signifie des suppressions de postes d'enseignants.
C'était en décembre dernier, la voix d'Eva, une étudiante, celle de Mathias Bernard, également président de l'université Clermont-Auvergne. Et avant de parler de ce qui vous frustre aujourd'hui dans le champ de la recherche, Bernard Lahire, je voudrais qu'on s'intéresse un instant à ce qui frustre la recherche elle-même, notamment les moyens, les conditions de travail. Comment est-ce que vous qualifieriez vous-même la crise que traverse aujourd'hui l'université française ?
Elle est très grave, et puis depuis un moment déjà. Mais là, ça devient vraiment catastrophique quand on voit des présidents d'universités ou de grandes écoles qui signent des papiers pour dire qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils n'ont plus l'argent pour soit payer leurs vacataires, pour faire fonctionner leur bibliothèque universitaire. On se demande où on va. Et là, on est vraiment, on a atteint le sommet de la crise quand même. S'il n'y a pas de l'argent qui est mis très très concrètement dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est une vraie catastrophe. Alors là, on parle en termes de moyens humains et matériels, etc. Mais c'est les conséquences de tout ça, en fait. Ça va se payer très très cher. Nos gouvernants qui parlent de compétition internationale en permanence, ça va se payer aussi sur ce plan-là. Quand vous avez de très mauvaises conditions pour travailler dans des universités, des laboratoires, etc., à un moment donné, vous ne pouvez pas produire ce que d'autres arrivent à produire avec d'autres moyens. Donc là, on a atteint vraiment un état de crise très très grave.
Est-ce que la recherche en pâtit plus encore que l'enseignement ? Et est-ce que la recherche en sciences sociales en pâtit plus encore que les autres champs de recherche ?
Je sais. Alors ça, je saurais pas dire sur qu'est-ce qui est le pire et qu'est-ce qui est le moins pire dans tout ça. Je pense que l'enseignement supérieur est vraiment dans un très très mauvais état, mais qui fonctionne depuis très longtemps avec des vacataires, par exemple. Et ça, c'est assez dramatique. Il faudrait une politique très très généreuse de recrutement parce que on a besoin d'enseignants stables qui peuvent donner transmettre sans avoir peur de la précarité du non renouvellement de contrat et puis qui sont pas payés on sait comment sont payés les vacataires, ils sont payés très tardivement, je ne sais pas comment ils arrivent à vivre avec des bouts de contrat ici ou là. Et ça, c'est pas possible. Avec des gens qui ont bac plus 9, il y a quelque chose qui ne va pas.
Vous l'avez dit, il faudrait, selon vous, une politique généreuse de recrutement. Et dans le même temps, on voit apparaître ces derniers mois, ces dernières années, un phénomène nouveau, des maîtres de conférences, jeunes, très jeunes, souvent autour de 35-40 ans, qui démissionnent parfois. Comment est-ce qu'on l'explique, ça ? C'est le métier même d'enseignant-chercheur qui pâtit d'une attractivité importante ?
Ça a été extrêmement choquant au départ pour moi quand j'ai vu ça. Les premiers qui faisaient ça, je me disais,
qu'est-ce qu'ils font où ils vont ?
Et non seulement qu'est-ce qu'ils font, où ils vont, certains faisaient des lettres pour expliquer qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi ils l'avaient fait. Quand on sait la difficulté d'obtenir un poste après une thèse, quand on a eu ce poste, démissionner, ça veut dire que vraiment il y a un gros problème. Et bon, les gens qui prenaient la parole disaient moi je préfère garder du temps en fait, enseigner en tant que vacataire et faire les recherches que j'ai envie dans le temps que j'ai envie, etc. Donc ça prouve vraiment, c'était vraiment le dernier endroit où on pouvait imaginer que des gens démissionneraient de la fonction publique, c'est énorme. Alors on a vu monter progressivement dans le secondaire hein, ce genre de comportement, enfin de démission très rapidement, ça ne cesse d'enfler et puis des gens partent au bout d'un certain temps aussi, puisqu'ils en ont un peu ras-le-bol de travailler dans ces conditions-là. Là, on touche depuis tout à l'heure à deux questions, l'éducation et la recherche. C'est deux éléments d'avenir. Donc, si vous touchez à ça, c'est l'avenir qui est compromis. Et ça, c'est très, très grave. Les gens s'en rendent pas compte. Alors, ils peuvent imaginer que les sciences sociales, c'est pas très important et tout ça, mais c'est valable pour la biologie, pour la physique, etc. Et ça se paiera, encore une fois, par des connaissances qui ne seront pas produites et qu'on pourra même pas imaginer. Enfin, si, on les imaginera, parce qu'il y a des pays qui sont moins pires que nous et qui arriveront à faire des choses que nous n'arrivons plus à faire.
Deux questions donc, l'éducation et la recherche. Intéressons-nous maintenant à la seconde avec vous, Bernard Larrière. Je voudrais vous faire entendre la voix de Christophe Darmanja. Il est anthropologue social, maître des conférences à l'Université Paris-Cité.
Il y a quand même, dans toutes les sciences, une explosion de la spécialisation. C'est pas propre aux sciences sociales. Que vous preniez la biologie, la physique, etc., bah, au fur et à mesure que la science avance, qu'il y a de plus en plus de scientifiques dans le monde, les gens sont de plus en plus spécialisés. Ça n'empêche pas que dans les sciences naturelles, les gens soient d'accord pour penser leurs travaux spécialisés au sein d'un corpus commun. C'est pas parce qu'il y a des tas de gens qui, en biologie, travaillent sur des tas d'espèces différentes et là qu'on remet en cause le cadre général du darwinisme. Le problème des sciences sociales, c'est pas en soi la spécialisation. Elle est normale au fur et à mesure que la science avance. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un cadre commun. Testard disait, par exemple, que c'est quand même un truc un peu fou qu'après 200 ans de sciences sociales, on n'ait toujours pas une classification des sociétés humaines qui fasse, comment dire, un minimum consensus.
On a l'impression de vous entendre, presque de vous lire, là, Bernard Lahire. C'est déjà l'idée que vous exprimiez hein, dans les structures fondamentales des sociétés humaines.
Christophe Darmanja, anthropologue, exprime parfaitement les choses. C'est-à-dire que le problème, c'est pas tant la division du travail qui est normale. On peut pas être spécialiste de tout, on peut pas travailler sur tout, on n'est pas toutologue, on n'est pas voilà. Donc on travaille, on rentre. Moi j'ai commencé comme sociologue de l'éducation, de la culture, puis sociologue des pratiques artistiques, etc.
Bon. Et des rêves aussi.
Même jusqu'aux rêves. Mais en fait, le problème, c'est effectivement, comme il le dit très bien, qu'il manque un cadre et il manque une stabilisation des acquis. Moi, je dis souvent, en physique, les gens savent vous raconter ce qu'on a appris depuis 150 ans ou 100 ans, depuis Einstein ou depuis Newton. On peut remonter comme ça et dire, bah, là, on a découvert ça, et tout le monde est à peu près d'accord. Il y a des choses qui sont controversées, il y a des gens qui cherchent à modifier le modèle de physique standard, etc. Mais ils sont quand même tous d'accord sur un certain nombre de choses. Ce n'est pas le cas dans les sciences humaines et sociales. Certains disent, oui, mais là, il y a un problème d'objet particulier, on traite de choses soi-disant plus complexes. Je ne crois pas que le monde social soit plus complexe que le monde de la matière ou le monde du vivant.
Ou le monde de la nature, oui.
Voilà. Mais ils sont persuadés que parce que ça bouge, parce que ça ne cesse d'évoluer, de se transformer, c'est l'histoire. Hein. Nous avons une matière historique. Sauf que ils ignorent le fait que l'univers est en expansion, qu'il y a des planètes qui naissent et qui meurent. Voilà, ça bouge et puis les espèces. Enfin, Darwin aurait pu dire, bah, pas de loi possible, puisque, voilà, il y a des espèces qui disparaissent, d'autres qui arrivent. C'est très complexe le vivant, etc. Et pourtant, il a dégagé trois lois qui permettent de comprendre l'évolution des espèces.
Si je reste un instant tout de même, Bernard Lahire, sur l'ultra spécialisation des sciences sociales contemporaines. contemporaines. Est-ce qu'elles empêchent aujourd'hui ces méthodes, ces objets réduits, hein, selon vous? Est-ce qu'elles condamnent, j'allais dire, à l'insignifiance pratiquement?
Alors, pas l'insignifiance, parce que ça sert toujours à quelque chose. Moi, j'ai rien contre les monographies, j'en ai produit. Donc, sinon, je m'insulterais moi-même, je cracherais sur mon travail, ce qui n'est pas le cas. J'ai pas du tout ce rapport-là aux monographies. Mais, si vous voulez, le problème, c'est que dans les secteurs de la physique, des sciences de la matière et de la vie, hein, pour aller vite, vous avez des gens qui acceptent le fait qu'il y ait des synthèses théoriques de choses qui sont produites dans des secteurs extrêmement diversifiés et très spécialisés, très pointus. Nous, on fait pas ça. Et dès qu'il y a quelqu'un qui commence à le faire, on dit « Oh là là, pour qui il se prend? Qu'est-ce que c'est que cette synthèse théorique ?» etc. Alors, je me permets de citer un historien dont on va beaucoup parler, et donc on commence à parler beaucoup sur France Culture en ce moment, parce qu'il va être panthéonisé, c'est Marc Bloch. Marc Bloch, il défendait exactement ce que je propose. Il disait, il faut faire des synthèses.
Ou plutôt l'inverse, c'est vous qui défendez ce que Marc Bloch
avançait. Oui, pardon, c'est en lisant que je me rends compte que, voilà. Parce que je découvre des textes de Marc Bloch aujourd'hui, qu'il a écrit en 1941, ou je sais plus, qui disent, il faut faire de la synthèse et même il faut faire des monographies en pensant qu'elles vont servir à des synthèses. C'est ça la division du travail. Et ça, c'est un modèle qui existe tout à fait dans les sciences de la matière et de la vie, et pas chez nous. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une organisation collective qui fonctionne mal dans nos secteurs. Donc, je le dis, j'essaye d'expliquer qu'il faut faire ce travail-là. Après, je pense qu'il y a des... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens depuis la sortie des structures fondamentales des sociétés humaines. Et les gens, beaucoup de collègues, en tout cas, ceux qui ne résistent pas, font le même constat que moi et disent... Vous avez bien fait de prendre la parole et de dire ça.
Ce qu'il faut ajouter par ailleurs, Bernard Lahire, c'est que votre ouvrage, vos deux ouvrages, ne sont pas une critique de vos collègues, dont non. Vous reconnaissez d'ailleurs plutôt la qualité du travail, mais ce que vous critiquez, c'est bien plutôt l'absence de synthèse, d'abord, vous l'avez dit, l'absence aussi peut-être, ou la difficulté à tracer des invariants, des régularités. Là aussi, expliquez-nous de quoi il s'agit.
Si vous voulez, je vais prendre un exemple. Quand les éthologues travaillent sur les structures sociales des abeilles communes ou des babouins ou des chimpanzés, etc.
Sur le comportement des animaux, donc.
Oui, le comportement et les structures sociales. Le type de rapports sociaux stables qu'ils ont entre eux, entre les mâles et les femelles, entre les vieux et les jeunes, entre les mâles alpha et puis bêta, etc. jusqu'au dernier. Ils étudient ces choses-là, ils voient les grandes structures. Après, ils peuvent dire, et de plus en plus, ils arrivent à le montrer, qu'il y a des variations culturelles d'un groupe de chimpanzés à l'autre. Ils sont pas tous exactement la même chose. Mais ils ont beaucoup moins de culture que nous, ils accumulent moins de culture que nous, et donc ils sont dans un processus de transformation culturelle et historique beaucoup plus lent que nous. Mais si on donne une chance aux chimpanzés d'exister sur plusieurs dizaines de milliers d'années, peut-être qu'on verra qu'ils vont devenir comme nous. Nous, on a cassé des pierres pendant des centaines de milliers d'années. Hein. Le genre homo n'a pas été brillant. On aurait dit, à cette époque-là, ils ont pas de culture, ces gens-là. Ben, ça montait. Et donc, si vous voulez, quand vous avez des éthologues, des primatologues, etc., qui travaillent sur ces structures sociales, ils arrivent à dégager les grandes structures invariantes. Et après, ils montent les variations. Nous, on part directement sur des variations. C'est même pas sur des variations. Chacun a sa petite société à lui. Il va y avoir des spécialistes, soit de telle société dans telle aire géographique, soit de telle... d'une période donnée, hein, on est médiéviste, on est spécialiste de telle ou telle époque. Et puis, par exemple, les sociologues travaillent essentiellement, hein, grosso modo, sur nos sociétés modernes, capitalistes, industrialisées, scolarisées, etc. Et même, j'allais dire pire que ça, ils travaillent que sur des petites parties de ces sociétés. Parce que c'est trop gros de dire je vais étudier la société capitaliste. Donc, si vous voulez, le gros problème, c'est qu'on perd le sens de ce qu'il y a de commun entre les différents types de sociétés, alors qu'il y a des invariants, qu'il y a des choses qui existent depuis le départ, mais qui ne cessent de varier en même temps. Et comme on regarde que des diversités, des variations, alors on voit pas ce que toutes ces sociétés ont en commun.
Alors pour tenter justement de tracer ces invariants, de dénicher ces lois générales aussi, si je puis dire, Bernard Lahir, il y a deux grandes méthodes, selon vous. Il y a la comparaison historique d'abord, donc comparer les sociétés humaines dans le temps. Deuxième méthode, vous avez commencé à l'aborder, à l'évoquer, c'est comparer les sociétés humaines avec les sociétés animales non humaines. Expliquez-nous ce deuxième point. Il y a de la valeur à justement comparer les sociétés humaines avec les sociétés non humaines ?
Ah mais oui, mais c'est fondamental, parce que si vous voulez...
Comment on s'y prend ?
D'abord, je vais dire pourquoi.
Après, je vous laisse répondre.
Quel est l'intérêt de faire ça ? L'intérêt, c'est d'avoir un point de comparaison. Nous n'avons pas de point de comparaison. Toute science procède par comparaison. Vous ne pouvez pas comprendre un objet si vous ne le comparez pas à un autre. Ça n'a pas de sens. Vous vous enfermez dans des choses qui sont spécifiques à un objet. Vous ne voyez pas ce qu'il a même de spécifique, parce que vous n'avez pas de point de comparaison. Donc, comment sortir de l'espèce humaine, des sociétés humaines ? Si on avait eu la chance d'avoir des Néandertaliens qui persisteraient aujourd'hui à exister, malheureusement, ils ont disparu depuis quelques dizaines de milliers d'années, on verrait qu'il y a des... Comme chez les espèces d'abeilles, etc., ils n'ont pas exactement les mêmes structures sociales. Il y a même des abeilles qui sont solitaires, et d'autres qui sont eusociales, et d'autres qui sont un peu entre les deux, etc. Bon, là, on n'a pas de point de comparaison. Donc, dès que vous allez chercher des points de comparaison, d'abord, vous voyez les points communs. Et moi, le premier point qui m'a bluffé, c'est d'apprendre que l'évitement de l'inceste, c'est pas une spécificité humaine. Donc Freud avait tort, Lévi-Strauss avait tort, ça fait quand même deux grands noms qui pensaient que ce qui était constitutif de l'humanité, c'était l'évitement de l'inceste. Alors, ils disaient tabou de l'inceste. Si on tient vraiment à tabou, alors oui, c'est mort, on peut pas comparer. Mmh. Mais quand même, Lévi-Strauss disait, les grands singes, ils couchent entre eux, entre cousins, cousines, frères, sœurs, etc., sans aucune une distinction, ils n'ont pas de règles. C'est faux. Voilà. Alors, aujourd'hui, on le sait. Mais on le sait, que les abeilles font ça. Elles cherchent... Il y a des pratiques exogamiques. On sort de son groupe pour aller se reproduire.
J'en reviens alors à la question que j'avais posée d'une manière un peu rapide, sans doute, Bernard Lahir. Mais est-ce que vous savez, par exemple, étudier des sociétés non humaines ? Vous savez étudier des sociétés de chimpanzés ? Comment on s'y prend, alors ?
Non, mais moi, ce que je fais, c'est de lire mes collègues. Et je suis de plus en plus en contact avec eux. Alors, le livre a beaucoup aidé.
C'est de la synthèse, là, aussi.
Oui, c'est de la lecture, mais comme eux, alors je vais aussi inverser les choses, je pense que eux devraient nous lire beaucoup plus qu'ils ne le font. Parce que ce que je dis depuis le début, c'est que les éthologues sont des sociologues. Et c'est des sociologues des sociétés non humaines. Il faut s'y habituer. Ils parlent de structures sociales, ils parlent de comportements sociaux, ils parlent même de transmission culturelle, parce qu'il y a des faibles transmissions culturelles, mais elles existent. Et donc tout ça devrait intéresser quand même un sociologue. C'est des gens qui n'ont pas le gène en tête en permanence, avec des explications génétiques ou je ne sais quoi. Non, ils étudient, parfois avec des méthodes dites ethnographiques, quasiment. Les gens qui étudient les cachalots expliquent qu'ils s'appuient sur des méthodes de recherche ethnographiques pour observer sur un bateau des groupes, voir comment ils fonctionnent, les champs qu'ils ont, etc., etc. Donc il faut lire, il faut s'entrelire entre les spécialistes des sciences sociales et les spécialistes des animaux non humains, parce que nous avons des intérêts communs.
Alors plongeons dans la partie que collectivement dans l'équipe de questions du soir on a préféré dans ce livre que vous faites paraître cette semaine, Bernard Lahir, est intitulé « Vers une science sociale du vivant ». Vous dégagez 5 propriétés qui appartiennent à l'ensemble du vivant, donc les humains comme les non-humains. On va commencer par la première et tenter de les expliquer dans l'ordre. La première, c'est la dissipation, soit la volonté de se maintenir en vie par l'exploitation de sources d'énergie libres présentes dans l'environnement. C'est quoi la dissipation ?
Alors ça, c'est un terme de thermodynamique. Il faut rappeler que, en fait, je m'appuie sur un papier qui est extrêmement connu par les biologistes et ce qu'on appelle les astrobiologistes qui sont à la recherche de la vie sur d'autres planètes et systèmes planétaires, etc. Ils cherchent des éléments et ils ont voulu construire une définition la plus large possible et en même temps, moi je la trouve pas aussi large que ça parce que vu les anciennes définitions, et notamment celles dont se dotait la NASA, avec des biologistes, hein, c'est pas juste un organisme voilà qui décide par lui-même, mais ils s'appuyaient sur de la biologie, et leur définition était assez floue, finalement. On mettait du Darwin directement, en disant c'est des organismes capables d'évolution, et une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on va pouvoir repérer des formes de vie? Donc, ils ont cherché, eux, à définir, en tant que biologistes et spécialistes des systèmes complexes, ils ont essayé de trouver la manière de définir. Le premier, effectivement, c'est tout organisme vivant est une structure dissipative, c'est-à-dire qu'elle est obligée de chercher de l'énergie à l'extérieur d'elle pour maintenir sa structure.
C'est l'alimentation, mais pas seulement.
Oui, c'est tout ce que vous êtes obligé de produire et en fait de détruire dans l'environnement pour arriver à vous habiter dans un lieu, à vous protéger, à vous chauffer, à vous refroidir si besoin, à toutes ces choses-là, en fait, détruisent des choses dans l'environnement, donc contribuent à l'augmentation de l'entropie. Ça, c'est une question physique. C'est pour ça qu'ils partent d'une propriété qui est physique, mais qui appartient au vivant. C'est le vivant essaye de maintenir sa structure. Évidemment, si vous arrêtez de manger, si vous arrêtez de boire, etc., votre structure, elle se dégrade.
Deuxième propriété, l'autocalyse. Alors là, il faut aussi expliquer aussi de quoi il s'agit. C'est la volonté de croître, de se perpétuer, de se reproduire.
Oui, c'est ça. C'est l'autocatalyse.
L'autocatalyse, j'ai bien noté.
Le terme est un peu barbare. Oui, c'est la capacité de n'importe quel organisme vivant à se régénérer quand il est abîmé, croître parce que il naît dans un état et il devient adulte dans une autre forme la plupart du temps, et puis se reproduire. Bon, et tout ça, ça a des conséquences après sociales, évidemment, mais nous, comme n'importe quelle cellule vivante, des organismes unicellulaires, on partage ces grandes propriétés.
La troisième propriété, c'est un troisième nom barbare, c'est l'homéostasie.
Oui, alors l'homéostase, on le connaît parfois parce que quand on a des systèmes régulateurs, par exemple, pour maintenir la chaleur d'un appareil, par exemple, un réfrigérateur essaye de maintenir en permanence sa température. Bon. Même s'il y a des perturbations externes, c'est-à-dire que si vous avez un grand froid ou un grand chaud, c'est pas la même chose. L'organisme va pas réagir de la même façon. Vous avez des attaques de l'extérieur qui viennent et qui viennent un peu bouger la structure. Si la structure n'arrive pas à s'auto-réguler et à maintenir sa structure malgré toutes les perturbations de l'extérieur, elle meurt. Et donc, une des grandes qualités du vivant, c'est d'avoir cette capacité à l'homéostasie, à maintenir et à s'auto-réguler malgré toutes les perturbations de l'extérieur.
Maintenir, par exemple, sa température intérieure ?
Oui, par exemple.
Le quatrième terme, il est beaucoup, beaucoup plus compréhensible, hein, c'est celui de défense.
Alors, le quatrième, c'est l'apprentissage, en fait.
Ah moi, j'avais ce qu'un apprentissage en cinquième, et le quatrième, la défense. Mais commençons par l'apprentissage, si vous voulez. Alors,
oui, parce que jusque-là, on est dans la définition de Bartlett et Wang, qui ont produit cette définition. Et là, c'est formidable, parce qu'ils commencent par des propriétés qui sont des propriétés physiques, et qui sont liées à la thermodynamique, etc., et qui fonctionnent très très bien sur le vivant. Et d'ailleurs, Erwin Schrödinger avait déjà évoqué ces questions-là pour parler de la vie. C'est des systèmes dissipatifs, etc. Bref, là, ils commencent par de la physique, ils terminent par quelque chose qui est beaucoup plus proche de la psychologie et des sciences humaines et sociales, c'est la capacité d'apprentissage. Quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, c'est formidable. Ils ont listé dans les quatre grands piliers, ils appellent ça des piliers, de toute organisation vivante, la capacité d'apprentissage. C'est-à-dire, pour un organisme, qu'il soit, encore une fois, unicellulaire, multicellulaire, très complexe ou assez simple, il a la capacité à aller chercher de l'information dans son environnement, de la mémoriser, de la reconnaître à l'avenir à partir du moment où il l'a mémorisée dans son environnement, et en fonction de ce que ça lui fait, si c'est dangereux, pas dangereux, un peu dangereux ou très dangereux, il va trouver des parades. Il va essayer de trouver des solutions, et donc il agit en conséquence en fonction de l'information. Donc tout organisme vivant est capable d'apprentissage.
Le principe de défense, alors, pour terminer ?
Alors, c'est proche du principe d'homéostasie, mais moi, je l'ai sorti. Alors, c'est moi qui
c'est votre propose. Initiative.
Ouais. J'ai insisté là-dessus. J'aurais pu le mettre sous la rubrique homéostasie, parce que c'est par rapport à des perturbations extérieures, mais il se trouve que, là aussi, tout organisme vivant doit pouvoir se défendre contre des attaques extérieures. Bon, bah, pour les humains, c'est se défendre contre des maladies, se protéger de blessures, c'est se protéger d'attaques, de prédateurs. Pendant très longtemps, on a eu ce problème-là. On en a beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'on est des hyper-prédateurs, donc on n'a plus de grands prédateurs qui peuvent nous manger à tous les coins de rue. Et puis d'autres groupes, puisque les groupes sont en lutte, en permanence. Dans l'histoire, il y a des guerres, des batailles entre groupes, et il y a des morts liées à ces batailles. Donc, il y a tout un arsenal pour se défendre, mais de même qu'un corps humain se défend à un système immunitaire et a besoin d'une défense par rapport à des organismes étrangers qui viennent l'embêter.
Merci beaucoup Bernard Lahire. Je recommande très très chaudement la lecture de cet ouvrage intitulé « Vers une science sociale du vivant », espèce de manifeste pour la science, pour la synthèse, pour l'interdisciplinarité également. On l'a largement entendu, ça a apparu aux éditions La Découverte. Merci encore Bernard Lahire.
Merci à vous.